Chapitre 22. T'ai-je déjà dit, mon aimé, combien je te sais gré d'avoir ouvert les portes de mon cœur? Sais-tu bien que sans toi, mon aimé, j'aurais passé ma vie entière dans la cage étriquée de ma raison? T'ai-je déjà rappelé, mon aimé, comment tu terrassas le monstre cruel qui vivait à l'intérieur de moi? Ignores-tu que c'est mon aimé, grâce à toi, que mes yeux purs distinguaient la vérité de l'illusion? T'ai-je déjà fredonné, mon aimé, les louanges et merveilles de toi, qui fus mon guide en innocence? Connais-tu la force, mon aimé, de mon torrent d'amour pour toi, qui dans l'océan de l'infini se jette? T'ai-je, mon aimé, déjà chanté tout cela? Poème populairement attribué à Naya Fikit. Sur l'île des Monagres, Tixou avait peu à peu perdu toute notion du temps. Il aurait été désormais incapable d'évaluer le nombre de jours et de nuits écoulés depuis le départ de Quendael. Comme il l'avait pressenti et annoncé aux pêcheurs lorsqu'ils s'étaient éloignés du monastère, un monagre géant les avait rejoints au large. Le cétacé s'était dressé de toute sa formidable hauteur devant la bulle océane, et s'était laissé glisser avec une lenteur majestueuse dans les vagues. Malgré les paroles rassurantes de l'orangien, Quendael n'avait pu dissimuler sa frayeur à la vue du monstre. « Suivez-le !» avait ordonné Tixou. L'aquasphère s'était donc docilement calée dans le sillage du mammifère marin et l'avait suivi à la manière d'un antique train sur ses rails. Il ne leur fallut que 2 jours et 2 nuits pour arriver en vue de l'île, dont les contours déchiquetés avaient soudain transpercé la cape de brume qui habillait l'océan des fées d'Albar. La frayeur de Quendael s'était transformée en épouvante, puis en panique à mesure que l'embarcation s'était approchée des hauts récifs affûtés qui protégeaient l'île. Un véritable troupeau de monagres peuplait la plage principale, un large croissant de sable gris sur lequel il se tenait parfaitement immobile, comme 2 gigantesques navires échoués. Certains d'entre eux, ayant décelé la présence des minuscules visiteurs, avaient rampé sur le sable et s'étaient immergés dans les flots pour venir frôler la frêle embarcation de leurs flancs noirs et de leurs redoutables cornes. Quendael avait cru qu'ils allaient mettre en pièces l'aquasphère. Il avait tremblé de tous ses membres et invoqué le secours des fées d'Albar. Tixou n'avait quant à lui éprouvé aucune crainte. Peut-être était-ce dû à ce long séjour sur le dos de l'un d'eux, ou encore à son expérience avec les grands lézards des fleuves de 2 saisons. Mais ni la taille ni l'aspect monstrueux des monagres ne l'avaient inquiété. L'alarmait davantage l'état de santé d'Afikit, dont les râles sifflants, les gémissements et la pâleur n'avaient cessé de le préoccuper tout au long de ces 2 interminables journées. Elle était restée couchée en chien de fusil sur le plancher mobile, était recroquevillé et avait détourné la tête dès qu'il avait tenté de lui faire ingurgiter un peu de nourriture ou quelques gouttes de boisson chaude et sucrée. Maîtrisant à grand-peine son tremblement nerveux, le pêcheur selpidien parvient à se frayer un passage entre les échines et les queues dont les souples ondulations génèrent autant de remous qu'une forte tempête. Bien que les nageoires translucides déployées comme des voiles gonflées par le vent provoque quelques brutales embardées, Quendael évite de s'empaler sur les cornes menaçantes ou de venir heurter les bouches hideuses qui baillent sur les multiples rangées de dents coniques, et il achemine d'un droit de sa bulle océane jusqu'à ce que l'étrave se plante dans le sable fin. Une envolée bruissante de mouettes jaunes et criardes salue leur échouage. Hors de l'eau, les monagres sont encore plus impressionnants. Les plus petits mesurent 10 mètres de la tête à la queue. La taille des plus grands varie de 30 à 40 mètres. Leur masse noire et luisante semble capter toute la lumière diurne et l'empêcher de parvenir jusqu'au sable de la plage. Leurs lentes et maladroites reptations labourent le rivage et creusent des sillons aussi larges et profonds que des cratères provoqués par une chute de météores.
Nous sommes dans le pays des agres. Nous sommes perdus,
balbutie Quendael. Mais non, rétorque Tixou. Ils sont amicaux. Sinon, croyez-vous qu'ils nous auraient permis de pénétrer sur leur territoire? Aidez-moi plutôt à sortir à Fikit. Portant la jeune femme et le conteneur étanche des vivres, il s'extrait de la coque transparente, avec lenteur pour ne pas effaroucher les monstres curieux, et gagne prudemment le sommet d'une dune herbeuse qui surplombe la plage. Tixou remarque que le monagre qui les a guidés et qui figure parmi les plus grands du troupeau le suit à quelques pas. Son énorme gueule allongée et baveuse avance au ras du sable. Une certitude frappe alors l'esprit de l'Orangien. C'est ce même monagre qu'il a recueilli lors de son naufrage et qu'il a transporté sur son immense échine. L'île est principalement constituée de rochers découpés, torturés, sculptés par les ciseaux du vent et les lames de l'océan. La végétation y est pratiquement inexistante, si ce n'est, comme sur le continent selpidien, une herbe jaunie racornie et qui pousse chichement sur les bandes de terre sablonneuses. L'île, environnée d'une épaisse chape de brume, n'est guère étendue. Du sommet de la dune où ils se sont réfugiés, il aperçoit l'océan de tous les côtés à la fois. Pendant toute une partie de la journée, ils observent, fascinés, les mouvements des monagres qui, de temps à autre, glissent sur le sable, s'avancent jusqu'aux premières vagues et s'en vont faire une longue promenade au large. Les plus petits, les plus jeunes, se livrent à d'incessants jeux nautiques. Un Fikit recroquevillé dans un creux de la dune semble bien mal en point. Des commissures de ses lèvres s'écoulent des filets de salive rosie de sang. Demande le pêcheur.
Je n'en sais rien, répondit Tixou en haussant les épaules.
Visiblement, une idée trotte dans la tête de Quendael.
Il ne nous reste presque plus de vivres, dit-il. Les provisions sont pratiquement épuisées, si je...
Tixou comprend que le Selpidien cherche un prétexte pour fuir au plus vite cette terre qui réveille en lui d'obscures terreurs inconscientes. Quendael n'est plus tout à fait certain de faire encore partie du monde des vivants.
« J'ai fait tout mon matériel. Si j'allais pêcher, je pourrais reconstituer les réserves. Y voyez-vous un inconvénient, Bilo ?»
Tixou pense qu'il ne servirait à rien de retenir son compagnon contre son gré.
« Non, c'est une bonne idée. Combien de temps vous faut-il ? »
Les yeux mauves sont traversés d'une lueur de soulagement.
« Quelques jours, 3-4 au plus. Je vous laisserai les vivres restants. En mer, je n'en aurai pas besoin. »
« Faites bien attention, Quen. Ne vous approchez surtout pas de Ouat. Si les Skaït inquisiteurs détectent votre présence, ils sauront où nous sommes cachés.
« Soyez sans crainte, je resterai au large. »
Quendael se hâte de murmurer un bref adieu, de dévaler la pente de la dune, de contourner avec un luxe inouï de précaution les masses noires des monagres allongées sur la plage. Puis il entre dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, s'engouffre dans l'aquasphère, met le moteur en route et s'éloigne de ligne en traçant un large arc de cercle pour ne pas se trouver nez à nez avec un mammifère marin revenant de promenade. La brume, teintée de l'encre diluée du crépuscule, absorbe progressivement la bulle océane. Tixou passe donc sa première nuit sur l'île, seul avec Afikit, tous les deux frileusement enroulés dans de chaudes couvertures de laine qu'il a découvertes dans le conteneur étanche laissé par le pêcheur. Il éprouve des difficultés à trouver le sommeil entre le piaillement des mouettes jaunes et les cris rauques des monagres dont les nuits sont passablement agitées. Un moment même, leur affût devient insupportable. Tixou se lève et assiste à un combat féroce entre deux cétacés, qui se précipitent frénétiquement l'un contre l'autre de tout leur poids corne en avant. L'île entière vibre, tremble sous le choc de ses coups de boutoir, comme si elle était sur le point de s'abîmer à tout jamais dans les abysses de l'océan des Fédalbars. La clarté diffuse de l'aube le surprend avec une terrible migraine et un coriace mal de dos. Une fraîche rosée s'est déposée sur les couvertures, les imprégnant d'une humidité poisseuse. Il regarde Afikit et croit d'abord qu'elle n'a pas survécu à la nuit. Elle ne bouge plus. Et cette fixité, ajoutée à la pâleur cireuse, morbide de son visage, ainsi qu'aux cernes profonds et violacés qui soulignent ses yeux clos, lui donne l'impression que la vie a déserté son corps. Le sang se glace dans les veines de Tixou. Il se penche sur elle et colle son oreille sur la poitrine de la jeune femme. Le cœur bat toujours, mais très faiblement. Le pouls est irrégulier, chaotique. Il la recouvre alors de sa propre couverture. C'est l'unique soin dérisoire qu'il est en mesure de lui prodiguer. Un sentiment d'impuissance rageuse, de révolte l'envahit. Ne l'a-t-il retiré du monastère que pour être le témoin de sa lente agonie sur cette île déserte abandonnée des dieux? Il s'assoit au sommet de la dune qui domine la grande plage où les monagres, mollement allongés, se remettent de leurs frasques nocturnes. L'aube troue par endroits le ciel brumeux. La lumière blanche tombe en colonnes inégales sur les flots assoupis. Une paix radieuse règne sur l'île. Machinalement, il ferme les yeux et s'imprègne avec volupté de cette atmosphère magique. La subtile vibration de l'entrailles entraîne jusqu'au cœur du silence intérieur et permet à son âme de se fondre dans l'harmonie de ce paysage isolé, coupé de l'univers. Il se dissout dans la sérénité de l'environnement et les flammes douloureuses de sa colère et de sa frustration se réduisent peu à peu en cendres froides. Du silence s'élève une petite voix, la voix à la fois claire et diffuse de l'intuition. Elle lui suggère qu'il trouvera un remède à la maladie d'Afikit en observant les monagres. Une suggestion saugrenue, invraisemblable. Comment ces animaux préhistoriques réussiraient-ils là où a échoué le chevalier de guérison du monastère? Il ne la rejette pas, cependant. Il n'est pas en position de rejeter quoi que ce soit. Et toute la journée, il s'escrime à surveiller les grands cétacés. Il se demande si cette idée n'est pas le fruit d'un simple rêve ou d'un désir inconscient. Les monagres se nourrissent principalement d'algues brunes et visqueuses. Ils vont chercher dans l'océan, qu'ils coincent entre leurs innombrables dents dont ils se servent comme des mailles resserrées d'un filet, et qu'ils entassent sur le sable avant de les engloutir en quelques secondes. Cette activité leur prend la majeure partie de leur temps. Tixou se tourne souvent vers Afikit. Il craint à tout moment que la flamme ténue, fragile de sa vie ne s'éteigne définitivement. Elle ne veut toujours rien avaler, refuse obstinément de desserrer les lèvres. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il remarque le curieux manège d'un grand monagre, celui que, pour la deuxième fois, il croit identifier comme son sauveur. Il est affairé à rassembler une grande quantité d'algues d'un vert émeraude translucide au pied de la dune où ils se sont réfugiés. Il plonge sans relâche dans les vagues, s'échoue sur le sable et pousse de son énorme gueule les plantes marines jusqu'à constituer un monticule de taille respectable. Puis il fixe Tixou de ses six yeux ronds et blancs, émet des cris sourds et plaintifs, et fouette le sol de sa gigantesque queue comme s'il cherchait à lui faire comprendre quelque chose. Une étincelle jaillit dans l'esprit de l'orangien. Il dévale le flanc de la colline de sable, s'approche de l'amas vert et luisant, et s'empare d'une poignée d'algues, surmontant son aversion pour leur contact gluant. Le monagre n'a rien perdu de la manœuvre. Les cris qu'il pousse ressemblent maintenant à des cris de joie. Muni de son butin, Tixou escalade les récifs les plus proches et, à l'aide d'un galet pointu, pilon improvisé, s'efforce d'écraser les algues en utilisant une excavation rocheuse comme mortier. Il obtient une bouillie épaisse qu'il transvase soigneusement dans un récipient à vivre laissé par Quendael. Puis, le cœur battant, l'espoir chevillé au corps, il présente l'étrange remède à la jeune femme. Cette fois, elle ne regimbe pas. Sa bouche s'entr'ouvre docilement et accepte la peu ragoûtante pitance. Les jours suivants, Tixou administre le singulier médicament avec d'autant plus de zèle qu'il constate une rapide et nette amélioration de l'état de santé de la jeune femme. Il a épuisé la réserve de provisions et s'est également résolu à se nourrir des algues grossièrement pilées que le grand Menagre, imperturbable, continue de lui fournir quotidiennement. Le reste du temps, tout en veillant sur Afikit, il se familiarise avec les autres cétacés. Il parvient à les reconnaître, à les différencier. Il leur donne des noms inspirés de leurs principales caractéristiques physiologiques. Ainsi, tant il lui rappelle irrésistiblement Limas Adumba de deux saisons, tant il possède la même noblesse d'attitude, la même connaissance instinctive et profonde de son environnement, il baptise Kachomarum, son ravitailleur en algues qui, chaque matin, fend la brume épaisse et surgit ruisselant des flots pour déposer son petit tas vert au pied de la dune. Lorsqu'Afikit, bien abrité derrière un repli de la dune, s'endort, l'orangien se promène au milieu des géants de l'océan. Parfois, il flatte la peau tendre des plus jeunes, Double Corne, Petit Gris, ou encore Stanislav, et de longs frissons de plaisir parcourent les flancs arrondis et lisses. À chaque fois qu'ils s'approchent d'eux, les monagres restent immobiles, comme s'ils craignaient que le moindre de leurs mouvements ne s'avère dangereux pour leur minuscule ami. Les algues, à la saveur amère desquelles il a fini par s'habituer, lui procurent vigueur et énergie. Quelques heures de sommeil lui suffisent dorénavant pour se réveiller en pleine forme. L'aube le trouve assis sur un rocher face à l'océan, en compagnie de l'antra, immergé dans le silence de son âme au milieu des taches claires des mouettes jaunes assoupies. L'air saturé d'iode entre à flot dans ses poumons. Ce matin-là, tandis qu'une clarté incertaine nimbait la brume d'une auréole argentine, il revécut sa naissance avec une douloureuse intensité, ce lancinant passage de la tiédeur du ventre maternel à la froidure d'un monde inconnu, cet éclaboussement brutal et agressif de lumière crue, blessant pour les yeux fragiles accoutumés à la pénombre humide, ces cris, cette recherche du souffle, cette atroce sensation de rupture du cordon qui le reliait à l'éternité. Il sortit de cette vision en sueur, haletant, au bord de la crise de nerfs, envahi d'un sentiment de souffrance et de libération. Le hurlement d'effroi qu'il poussa sans s'en rendre compte provoqua un début de panique chez les mouettes jaunes qui flânaient dans les parages. Les matins suivants se succédèrent d'autres images, d'autres visions. Elles provenaient de mondes inconnus, de civilisations révolues, d'air lointaines et enfuies dont il lui semblait avoir été, d'une manière ou d'une autre, le témoin. C'était comme des souvenirs d'autres existences, d'autres expériences qui avaient contribué à fasciner l'actuel Tixou, et qui expliquaient certaines de ses réactions du temps présent, comme des racines dont les ramifications complexes se seraient développées dans les couches insondables de son inconscient. La santé d'Afikit s'améliorait de façon spectaculaire. Son teint avait perdu sa pâleur, ses cernes violacées s'étaient effacées, et ses yeux avaient recouvré leur éclat chatoyant. Elle ne rechignait jamais à ingurgiter ses rations quotidiennes d'algues que Tixou écrasait au préalable avec son galet. Progressivement, elle put se lever et esquisser quelques pas vacillants en haut de la dune. En revanche, parallèlement à l'heureuse évolution de sa maladie, elle faisait preuve à l'encontre de l'orangien d'une froideur, d'un dédain qui semblait s'accentuer au fur et à mesure qu'elle se rétablissait. Souvent, lorsqu'il revenait des longues méditations solitaires qu'il effectuait sur les hauts récifs surplombant la crique, il la retrouvait assise, la couverture sur les épaules, en train de mâcher farouchement une branche d'algue. Il avait l'impression de déceler de vives lueurs de courroux dans les yeux brillants qui le fixaient alors. Lui reprochait-elle de l'avoir enlevé contre son gré au monastère, et de l'avoir emmené sur cette île perdue gardée par des monstres hideux, avec pour toute nourriture ces algues à l'âpre saveur? Un soir, alors qu'il s'apprêtait à s'enrouler dans sa couverture, elle s'éloigna de lui de son allure encore vacillante pour aller se réfugier dans une excavation rocheuse distante de la dune d'une centaine de mètres. Elle se dirigea droit sur la bouche sombre qui bâillait sur un pan de falaise, comme s'il y avait déjà un moment qu'elle avait repéré cet abri. Il l'y rejoignit au petit matin, après avoir passé une bonne partie de la nuit à s'interroger sur la conduite à suivre. Lorsqu'il entra dans la grotte, elle était adossée à la paroi rugueuse et semblait perdue dans ses pensées. Dès qu'elle l'aperçut, elle se redressa aussi vivement qu'un serpent siffleur devant l'intrus violant son territoire. Vêtue de sa seule blouse bleue lacérée çà et là, avec sa chevelure qui flottait sur ses épaules et dont les reflets d'or étincelaient au gré des légers souffles d'air, elle était l'image même de la beauté sauvage, naturelle. « Je viens voir si tout va bien, » dit-il en restant sur ses gardes. Les ongles de la jeune femme plantés dans sa peau lui avaient laissé un souvenir cuisant.
« Ne vous souciez pas de moi, » répondit-elle d'une voix traînante, affaiblie.
C'était pratiquement la première fois qu'il l'entendait prononcer des paroles cohérentes depuis leur entrevue dans son agence de deux saisons. Malgré l'accueil de la jeune femme, il ne put s'empêcher justement de se soucier d'elle.
« Vous allez mieux, on dirait. »«
Pourquoi m'avez-vous enlevé ? »
demanda-t-elle agressive. Le ton dénotait qu'elle avait en partie recouvré son arrogance.
« Parce que l'ordre était sur le point de se faire anéantir et que vous risquiez de tomber aux mains des armées du Nouvel Empire, » expliqua-t-il sans se départir de son calme.
« Nouvel Empire ? »
« Beaucoup de choses se sont passées depuis qu'on vous a inoculé le virus. » Vous vous souvenez peut-être de certains détails, mais je pense que vous ignorez encore la plupart des événements qui ont bouleversé l'univers connu. L'ordre a été...
Je ne vous crois pas! Le Madi Sekorum n'aurait pas permis cela. C'est à lui que m'avait envoyé Srimitsu.
Le Madi Sekorum est mort depuis plus de 40 ans, annonça lentement Tixou. Assassiné par certains chevaliers. Ceux qui l'ont remplacé sont parvenus à garder le secret de sa disparition.
« Vous mentez !»
Les yeux flamboyaient, elle ne contrôlait plus ses émotions comme elle avait su si bien le faire sur deux saisons.
« Vous mentez !»
répéta-t-elle.
« Si le Mahdi avait été assassiné, Srimitsu l'aurait appris et se serait arrangé pour prévenir mon père. Vous inventez cette histoire parce que vous ne voulez pas l'avouer. Vous ne m'avez enlevé que mu par un unique et sordide sentiment de jalousie. »
Tixou blêmit, mais parvint à se contenir.
C'est vrai, j'ai été jaloux. Mais ce n'est pas cette raison qui m'a poussé à...
Comme si un sombre pressentiment l'assaillait brusquement, elle interrompit sèchement cette piètre plaidoirie.
Qu'est-il arrivé au guerrier Phil Passmussa?
Il y a de très faibles probabilités qu'il ait survécu à la bataille que l'ordre a livrée contre les armées impériales.
« Non, ce n'est pas vrai, vous mentez !»
Prostrée, elle se laissa glisser contre la paroi et se mit à pleurer. Les larmes brûlantes représentaient pour elle, qui avait toujours méprisé ou combattu les émotions, un cruel constat d'échec. Elle avait beau vouloir se persuader du contraire, elle pressentait que l'employé de la compagnie de transfert avait dit la vérité. Elle ne reverrait plus Philp, celui pour lequel son cœur avait battu si fort. Celui qui lui avait révélé sa véritable nature de femme. Quant à son contrôle des émotions, muraille patiemment érigée par son père et la stricte éducation syracusaine, il s'était effondré comme un vulgaire château de cartes et, seule, elle n'aurait pas la force et le caractère nécessaire pour le reconstruire. Elle était désormais condamnée à souffrir. La maladie et les sentiments avaient eu raison de cette place forte qu'était sa volonté et qu'elle avait toujours considérée comme indestructible. La rigidité de ses principes avait été ébranlée, fissurée, disloquée par sa confrontation avec le monde extérieur. Elle était devenue un être humain ordinaire et n'avait plus d'épaule sur laquelle poser sa tête. Les larmes trop longtemps contenues ne cessaient de couler comme une fontaine d'amertume. Elle se demandait à quoi pouvait bien servir sa guérison miraculeuse, si c'était pour la précipiter dans un tel gouffre de vulnérabilité.
« Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» proposa timidement Tixou.
Il luttait à la fois contre le dépit qui lui rongeait les entrailles et son envie de la prendre dans ses bras et de la consoler.
« Laissez-moi, partez, s'il vous plaît. »
La mort dans l'âme, il sortit de la grotte et marcha jusqu'à l'épuisement sur les crêtes rocheuses. Un vent tourbillonnant déchiqueta la brume et couvrit le ciel de nuages bas et noirs. Les déferlantes se fracassèrent sur les falaises, et leurs langues mousseuses déposèrent une écume livide sur les étendues sablonneuses. Cette tempête excita les monagres. Aucun ne resta paresser sur les grandes plages comme à l'habitude. Ils poussèrent des cris de joie et se ruèrent avec un bel ensemble dans le sein de l'océan démonté. Échines noires, cornes, nageoires et queues jouèrent sans se lasser avec les éléments et dessinèrent des figures géométriques fuyantes avec les ourlets blancs des vagues ébouriffées. À partir de ce jour, une étrange relation s'instaura entre Tixou et Afikit. Chaque matin, après le passage de Cachomaroum, l'orangien déposait devant l'entrée de la grotte une ration d'algues pilonnées et disposées dans un récipient. Puis il escaladait la falaise, dérangeait dans son ascension les mouettes jaunes abritées derrière les aspérités rocheuses et s'allongeait sur un promontoire de manière à rester parfaitement dissimulé. Au bout d'un moment, Afikit, enroulé dans sa couverture, faisait son apparition, se saisissait du récipient et, aussitôt après avoir jeté un rapide regard panoramique, réintégrait la pénombre de son antre. Rassuré alors sur la santé de la jeune femme, Tixou se rendait sur la plage et s'en allait saluer les monagres, interpellant chacun d'eux par son surnom. Ce rituel devenu familier mettait en joie les cétacés placides qui se faisaient un devoir de répondre en lançant des chants sonores empreints de gaieté. Ensuite, il choisissait un coin tranquille, isolé, et à jeun, il avait constaté à plusieurs reprises que ses expériences étaient de qualité supérieure lorsqu'il avait le ventre vide. Il passait plusieurs heures en tête à tête avec l'antra, dont il appréciait de plus en plus la compagnie. Il se laissait alors couler sans retenue dans le temple du silence intérieur, atteignait la nef, l'immense carrefour où se croisaient toutes ses routes, anciennes et nouvelles, passées et futures. Là, il s'aventurait dans l'une de ces innombrables voies d'accès qui conduisaient aux sources inexplorées des profondeurs de son âme. Découvrait des aspects méconnus, cachés, de ce labyrinthe aux multiples couloirs, aux multiples salles qui composaient son individualité. Parfois, lorsqu'aucun bruit, piaillement aigu d'une mouette dont l'aile le frôlait, sifflement du vent dans les conques naturelles des récifs ou chant prolongé d'un monagre, ne le ramenait à la perception de son environnement, il lui arrivait de demeurer toute la journée assis sur son rocher, face à l'océan des fées, et d'explorer sans relâche la forêt touffue, luxuriante, surprenante, de sa conscience, au cœur de laquelle l'entraînaient les obscurs sentiers ouverts depuis la lumineuse nef du silence. Il lui arrivait également d'ouvrir brusquement les yeux, alerté par une soudaine sensation de présence. Il apercevait alors l'ombre furtive d'Afikit qui se découpait à contre-jour au-dessus de lui. Découverte, elle battait précipitamment en retraite en direction de sa grotte. Tixou acquit progressivement la certitude qu'il était le produit d'une évolution complexe et que l'attrait sensoriel de l'environnement, le bruit de la vie, le coupait de ses racines profondes. Lors de ses plongées dans les arcanes de son être, lui revenaient des bribes de mémoire, des fragments de cet indispensable fil conducteur, de cette succession d'existences dissemblables, de ce lien d'éternité que l'identification à ses limites corporelles et intellectuelles avait rompu. Pendant ces instants suspendus dans l'espace et le temps, il était relié à toutes les particules composant l'univers. Il était à la fois tout et rien, le centre et la courbe, l'acteur et le spectateur. Ses perceptions, ses opinions, ses jugements, tout ce qui composait son individualité actuelle, ou plus exactement son absence d'individualité, se modifiait, s'élargissait. Aurait-il désormais le droit de condamner les actes des bourreaux tout en sachant que lui-même avait été un jour ou l'autre bourreau, et que des parcelles de cruauté subsistaient dans les profondeurs de son esprit. La haine à l'encontre des tortionnaires n'était-elle pas un rejet ambigu de ses propres réactions? En s'étant, involontairement, dressé contre les scaïtes d'Hyponéros, les assassins de Prithive et les Syracusains, ne s'était-il pas lancé à l'assaut de ses propres démons? Lorsqu'il s'était précipité sur les traces d'Aphikite, n'était-ce pas à son propre secours qu'il avait volé? N'aimait-il pas cette femme parce qu'il se trouvait laid et qu'il avait envie de se contempler dans un somptueux miroir? Il se rendait compte qu'en continuant de s'impliquer dans le cycle des réactions, des opposés, des extrêmes, il n'aboutirait qu'à proroger son appartenance au monde des mirages. Sa spécificité, sa différence, ne résidait pas dans la recherche des sensations, dans le tintamarre des sens, mais dans l'intuition, dans l'écoute silencieuse d'un destin qui, pour le moment, échappait en grande partie à sa compréhension. La redécouverte progressive de sa mémoire intemporelle jetait quelques traits de lumière fugaces sur sa nature véritable, mais leur éclat demeurait trop éphémère pour lui permettre une vision globale. Il était, comme chaque être, un pion essentiel de l'échiquier universel. Mais il lui fallait encore du temps pour s'investir dans le rôle que la création lui destinait. Lorsqu'il émergeait de ses longues expéditions intérieures, il allait se baigner dans l'océan en compagnie des mammifères qui dérivaient, immobiles, attentifs à ne pas l'entraîner dans les tourbillons engendrés par les mouvements de leurs nageoires. L'eau glacée lui fouettait la peau. Et il repensait alors au torrent de l'échine de la marquise dans lequel Stanislav Nolustriste l'avait précipité en libérant un tonitruant éclat de rire. De temps à autre, les jeunes monagres jaillissaient brusquement sous lui et, avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, le juchaient sur leur échine. Sans tenir compte de ses gesticulations et de ses menaces verbales, il l'emmenait faire une bordée au large, tous les yeux débonnaires mais vigilants de Cacho Marum, qui semblait dévolu à sa surveillance rapprochée. Puis ils estimaient sans doute que la farce avait assez duré et le ramenaient sur la plage en poussant des cris assimilables à de la moquerie. Quendael ne donnait toujours pas signe de vie, et cette absence prolongée inquiétait Tixou. Aphikite se portait de mieux en mieux, à en juger par les longues balades qu'elle effectuait autour de l'île. Il discernait sa fine silhouette noyée dans la brume entre les lignes brisées des excroissances rocheuses. Depuis la scène de la grotte, il se tenait à l'écart de la jeune femme. Il se contentait de déposer discrètement ses algues quotidiennes à l'entrée de son repaire et s'éloignait sans demander son reste. Le temps s'étiolait, se diluait. Il avait l'impression d'habiter sur cette île depuis des siècles. Ce matin-là, après que l'antra l'eut déposé au carrefour du silence, il s'engagea dans un sentier qu'il n'avait pas encore exploré. Il se retrouva soudain à l'intérieur de l'agence de deux saisons, précisément dans le salon des déromates, devant la machine noire et ronde qui trônait au milieu de la pièce. Sans hésiter, il pénétra dans la sphère inerte et se dilua en un premier temps dans les couches grossières des matériaux. Puis il atteignit le cœur de la matière, le vide. Le champ infini où naissaient les atomes, les molécules, les astres de l'infiniment petit dont la danse suspendue façonnait toute forme dans les étoiles de l'infiniment grand. Les moteurs se mirent à vibrer tandis que le filtreur de cellules s'enluminait de milliards d'étincelles bleues et blanches. Une fulgurante décharge d'énergie le traversa de part en part. Son intensité à la limite du supportable lui fit ouvrir précipitamment les yeux. Il ne se trouvait plus sur le rocher plat où il s'était installé quelques minutes plus tôt, mais sur le sable de la grande plage au milieu des monagres. Il crut d'abord qu'il avait rêvé, qu'il s'était emmêlé dans ses souvenirs ou encore qu'il s'était fourvoyé dans le dédale des chemins du temps. Mais L'attitude curieuse des cétacés qui frappaient en cadence le sable de leur queue ondulante démontrait qu'ils venaient d'assister à un événement peu banal. Mû par le besoin pressant de vérifier, de savoir, il referma les yeux. L'entra le véhicula jusqu'au sanctuaire du silence. Il oublia le sourd et lent martèlement des queues sur le sable gris. L'entrée du sentier s'offrit de nouveau à lui. C'était une bouche de lumière qui l'appelait, qui l'attirait. Il s'y engouffra et fut instantanément transporté dans le vieux déromate de la compagnie. Il opéra une deuxième fusion avec la machine jusqu'au niveau les plus fins de la matière et commanda par la pensée le déclenchement des moteurs et du filtreur de cellules. Un éclair d'énergie le transperça. Il souleva ses paupières et constata qu'il était retourné sur le rocher plat qu'une écharpe de brume enveloppait d'une gangue humide. Son apparition inopinée effraya les mouettes jaunes dont certaines s'envolèrent avec tant de précipitation qu'elles se heurtèrent au récif. À part la réaction de panique des oiseaux, rien ne laissait supposer qu'il venait d'accomplir l'extraordinaire prodige de se transporter d'un bout à l'autre de l'île par le seul levier de la pensée. Rien, si ce n'était une grande fatigue, anormale en cette heure matinale où d'habitude il ressortait entièrement régénéré de son tête-à-tête avec l'antra. Rien, si ce n'était une sensation d'euphorie, de bonheur radieux, de plénitude. Il voulut renouveler l'expérience, mais l'antra refusa d'obtempérer à sa requête et ne se manifesta plus. Il comprit alors qu'il lui fallait se reposer. Il prit un bain tonifiant dans l'océan. Les jeunes monagres, particulièrement enjoués, le chahutèrent énergiquement et se disputèrent dans de grandes gerbes d'écume la faveur de le transporter sur leur dos. Il fallut l'intervention autoritaire de Kacho Marum pour freiner leur ardeur. Allongé sur le sable de la dune, drapé dans sa couverture, Tixou dormit comme un enfant tout le reste de la journée. Une odeur pestilentielle s'exhalait de sa combinaison rouge crasseuse. Ses diverses tentatives de la rincer dans l'eau de mer n'avaient servi qu'à stimuler sa puanteur. À partir de cet instant, il l'abandonna, ainsi que ses bottes, et déambula désormais entièrement nu, indifférent à ce que pourrait penser Afikit si elle le surprenait dans cette tenue. Sa peau s'accoutuma rapidement à la fraîcheur que le portait par le vent du large, et la couverture suffit à le protéger de l'humidité pénétrante déposée par la brume nocturne. La nuit se peupla de cauchemars. C'était comme si toutes les cohortes des monstrueuses entités qui logeaient dans les soubassements de son âme avaient décidé d'émigrer tout en même temps, dérangées par les pinceaux de lumière effleurant les ténèbres de leur antre. Après sa corvée matinale d'algues, broyage et transport jusqu'à la grotte d'Afikit, il se dépêcha de chercher un endroit tranquille. Il omit même, dans sa hâte, d'aller souhaiter le bonjour à ses amis monagres. Oubli qui fut bientôt et involontairement réparé. De l'étroite corniche sur laquelle il s'était assis, après avoir enclenché le processus intérieur qui l'emmenait à la nef du silence, puis au salon des déromates de deux saisons, il se retrouva subitement au milieu des mammifères géants sur la plage, apparition saluée comme il se devait, par un concert de chants assourdissants. Il leur envoya un petit signe amical de la main, referma les yeux, descendit sur la vibration de l'antra jusqu'à la source du silence, longea le sentier subtil conduisant au déromate, se fondit en lui et s'abandonna au voyage. Mais alors qu'il s'attendait à découvrir les récifs embrumés qui bordaient la corniche et de là la tache grise de l'océan, il se rendit compte qu'il s'était transféré dans une ruelle sinueuse et pentue de la ville de Ouat. Il reconnut tout de suite à ces maisons caractéristiques aux façades blanches, aux toits de tuiles rouges et aux balcons de fer forgé et torsadé. Il était assis en plein milieu de l'artère pavée, nu et exposé aux regards indiscrets. Elle était déserte, heureusement. Dans le cas contraire, l'insolite matérialisation d'un homme nu et hirsute n'aurait certainement pas manqué de déclencher quelques remous au sein de la population. Remis de son étonnement, il se releva et se plaqua contre la façade d'une maison basse. Dans une petite cour intérieure délimitée par un muret recouvert de tuiles, des vêtements séchaient sur un fil blanc. Il franchit prudemment la clôture de pierre. Il craignait à tout moment l'intervention des occupants des lieux, mais nul ne manifesta sa présence. Il choisit une combinaison de pêche bleue qu'il évalua à peu près à sa taille et s'en revêtit bien qu'elle fût encore humide. Puis il décida de se promener dans la ville, curieusement silencieuse, comme morte. Pieds nus, il descendit la ruelle et atteignit bientôt le port. Tous les Selpidiens semblaient s'être donné rendez-vous sur la digue principale et sur les places avoisinantes. Devant la jetée, une estrade avait été dressée. Quatre assassins de Prithiv, de Skaït en Akaba noir, et un cardinal creusien y avaient pris place. L'ecclésiastique, un petit homme maigre enfoui dans un col en corps pourpre et un surplis violet, haranguait la foule. En s'approchant de plus près, Tixou vit que les assassins de Prithiv encadraient un pêcheur au cou et au poignet entravé par des chaînes scintillantes à commande vocale. Ce pêcheur, c'était Quendael. Aucun doute possible. Il s'agissait bien de son ami, vêtu de sa sempiternelle combinaison de pêche rouge et de ses bottes jaunes. Quendael, dont les yeux mauves s'emplissaient d'une incommensurable frayeur, qui ne parvenait pas à maîtriser les tremblements nerveux qui parcouraient ses membres et son tronc. De chaque côté de l'estrade, deux cadavres que l'Orangien identifia comme étant ceux des officiants de magie achevaient de se décomposer à l'intérieur de croix de feu. Ils avaient donc capturé Quendael. En dépit de sa promesse formelle, le Selpidien n'avait pu s'empêcher de pousser jusqu'à Ouat. Comme son esprit n'était muni d'aucun système de défense contre l'inquisition mentale, les Skaït et leurs alliés étaient certainement avertis de la présence des fugitifs sur l'île des Monagres. L'imprudence du pêcheur leur faisait désormais courir un terrible danger. Tixou perçut les ondes investigatrices qui émanaient des Akaba noirs et s'introduisaient discrètement dans les esprits malléables des Selpidiens. Les derniers, hommes, femmes, enfants, affichaient des mines abattues, résignées. Depuis que ces nouveaux maîtres avaient vaincu la chevalerie Absurat, la fierté de cette digue, et régissait leur existence, ils étaient devenus à leur corps défendant les témoins horrifiés des scènes atroces où l'on faisait subir aux récalcitrants, et en particulier aux officiants de magie, d'abominables tortures. Les femmes avaient perdu leur insouciance frondeuse, leur appétit de vivre. Elles baissaient la tête pour cacher les larmes qui perlaient au coin de leurs paupières. Les hommes, les rudes et fiers pêcheurs d'Albar, courbaient la nuque. Les larges boucles des bandeaux qui saignaient leurs chevelures blanches ou bleues retombaient mollement sur leurs épaules. Bien qu'il fût pieds nus, personne ne prêta attention à Tixou lorsqu'il se faufila dans les rangs de l'assistance. Le cardinal creusien avait terminé son discours. L'Orangien chercha désespérément un moyen de tirer Quendael des griffes des mercenaires, mais aucune opportunité ne se présentait pour l'instant. Au moindre geste suspect de sa part, il le coucherait immédiatement en joue et le criblerait de disques tueurs. Sur l'estrade, un Skaït, jusqu'alors immobile, avança de quelques pas en direction du prisonnier. Quendael voulut se dégager de l'emprise des chaînes magnétiques, mais un hurlement guttural entraîna le resserrement des implacables mailles brillantes autour de son cou. La respiration du pêcheur devint sifflante et son teint livide.
« Qu'est-ce qu'ils vont lui faire, papa ?»
fit une voix enfantine. « Ils vont le tuer par la pensée, » répondit une voix grave.
« Pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait ?»
insista l'enfant. « Tais-toi, ça ne nous regarde pas. » Tixou ne pouvait se résoudre à laisser assassiner sous ses yeux celui qui l'avait recueilli dans l'océan des fées d'Albar. Ne sachant comment intervenir, il appela l'antra à la rescousse. Dès que les anneaux vibrants du son de vie se furent déroulés, il le pria d'ériger un barrage protecteur devant l'esprit de Quendael. Instantanément, et bien qu'il eût improvisé cette tentative en dernier ressort sans y croire, l'antra abandonna l'esprit de Tixou qui se trouva soudain démuni de son indispensable soutien. Une situation qui, si elle se prolongeait, pouvait devenir périlleuse. Il était maintenant dans l'incapacité d'opposer une résistance quelconque à une inquisition mentale. Sur l'estrade, une scène étrange se déroulait. Le pêcheur avait d'abord posé ses mains sur ses tempes, comme pour chasser la douleur hors de son crâne, puis il s'était tout à coup détendu, apaisé. Malgré la présence à ses côtés du redoutable tueur mental, il faisait preuve pour quelqu'un qui était censé mourir en quelques secondes d'une santé resplendissante, insolente. Ce phénomène décontenança le cardinal qui jeta de brefs coups d'œil mi-intrigués, mi-furibonds, en direction de la cabane noire. Sans l'antra, Tixou avait la sensation désagréable d'être nu comme un ver. Au bout d'un moment qui lui parut interminable, le skate s'approcha du cardinal et lui murmura quelques mots à l'oreille. La voix forte du prélat, visiblement contrariée, domina la rumeur qui montait de l'assistance narquoise.
« Pour certaines raisons, nous avons décidé de sursoir à l'exécution. Mais ne croyez surtout pas qu'il s'en tirera si bon compte. Son châtiment sera d'autant plus exemplaire. Cet homme a violé les édits impériaux, ce qui revient à dire qu'il a transgressé les lois divines et parfaites du Kreutz, dont je suis l'humble représentant ici-bas. Il sera donc condamné à la croix de feu à combustion lente. Et maintenant, rentrez chez vous et vaquez à vos occupations !»
La foule se dispersa lentement. Les Selpidiens étaient persuadés que les fées étaient venues au secours de l'un des leurs. Les fées ne les avaient donc pas tout à fait abandonnés. Tixou suivit le mouvement. N'était pas le moment de se faire remarquer. Aussi inopinément qu'il l'avait quitté, l'antra revint se nicher dans son esprit. Le déplacement du son protecteur avait réussi à sauver le pêcheur d'une mort à laquelle il semblait promis. Toutefois, l'enjeu de l'obscure bataille qui se livrait en ce moment dépassait les intérêts particuliers. Le fait de diriger l'antra sur une personne menacée avait placé Tixou dans une position dangereuse. Les circonstances l'avaient exigé, et s'il avait fallu, il aurait fait le don de sa propre vie à Quendael. Mais il ne devait pas en arriver à ce genre d'extrémité. Il n'avait pas le droit d'exposer ainsi sa vie pour un seul individu. Il était nettement préférable d'apprendre à transmettre le son au plus grand nombre, comme Afikit le lui avait transmis sur Point Rouge. La jeune femme et lui incarnaient les flammes ténues de l'espoir, de l'ultime espoir des humanités de l'univers, comme la Syracusaine le lui avait brutalement affirmé lorsqu'elle avait surgi fière, hautaine, dans son agence de deux saisons. Si les Skaïtes parvenaient à souffler ces feux vacillants, les mondes recensés risquaient d'entrer dans une ère de chaos dont ils ne pourraient peut-être jamais se relever. Tandis qu'ils cheminaient lentement dans les rues de Ouat, entre les petits groupes épars des Selpidiens accablés, les paroles du chevalier fou, le chevalier de guérison rencontré fortuitement dans la crypte des archives, lui revinrent en mémoire.
« Il m'a dit, pars ! Un autre homme est prêt qui attend ses disciples pour commencer une autre œuvre. Cherche-le ! Si tu le désires avec ton cœur, tu le trouveras !»
Ces mots rythmèrent sa marche jusqu'à la forêt des magiciens à l'orée de laquelle, sans le vouloir, il était arrivé. Il retentissait tel de puissants appels montant des profondeurs de son âme, se mêlant à d'autres mots entendus çà et là pendant son périple. « Pars, un autre homme attend ses disciples. Il faut accomplir ton destin. Accomplir ton destin. Suivre ta voie. Une autre œuvre. » Une fois plongé dans la pénombre du couvert, il s'assit machinalement entre de hautes et spongieuses fougères et s'adossa au tronc noueux d'un chêne-pin millénaire recouvert d'une épaisse toison de gui. Les mots résonnaient clairement en lui. Ils formaient un accord harmonieux, une symphonie céleste dont l'ineffable beauté le ravissait. Il ferma les yeux et la nef de silence l'accueillit. Au bout du sentier, il y avait la vieille et fidèle servante, la machine ronde et noire de deux saisons. Il n'eut pas besoin de rouvrir les yeux pour se rendre compte qu'il était de retour sur l'île. L'odeur d'iode et d'algues mêlée à celle des monagres l'en avait déjà informé. Le déromate intérieur l'avait expédié sur la haute dune qui dominait la plage. Les mammifères marins étaient anormalement agités. Ils cinglaient le sable de leurs queues enragées et poussaient de longs et stridents hurlements de terreur. Certains se ruaient sauvagement dans les vagues et soulevaient de furieux gerbes d'écume. Au pied de la colline de sable, Kacho Marum, le grand monagre, fixait Tixou de ses six yeux ronds et fluorescents tout en proférant un chant sourd et plaintif. Tixou songea à Quendael et une tristesse chagrine l'envahit. Le pêcheur selpidien n'était pas encore tiré d'affaire. « Il ne faut pas être triste, » fit soudain une voix dans son dos. Il se retourna. La silhouette d'Afikit se découpait sur le fond gris de la brume. Abasourdi, il n'eut pas la présence d'esprit de répondre.
« Je me suis permis de vous suivre par la pensée, » poursuivit-elle.
J'ai su ce qui était arrivé à votre ami le pêcheur, mais que vous me croyez ou non, je sais qu'il s'en tirera. Vous lui avez fait un beau cadeau. Même si l'entra l'a quitté, il continuera de veiller sur lui. Il n'y a donc aucun souci à se faire.
Le vent du large, de plus en plus violent, jouait dans sa chevelure et son ample blouse bleue. Un sourire chaleureux illumina son splendide visage.
« J'ai beaucoup de choses à vous dire, » reprit-elle, « tellement que je ne sais pas par laquelle commencer. »
Elle s'approcha et s'assit à côté de lui. Il respira son odeur colportée par les rafales de vent. À la vue de la bouille ahurie de Tixou, de sa bouche ouverte, de ses yeux écarquillés, elle pouffa de rire. Puis elle retrouva son sérieux et ajouta.
« Mais je crois que nous n'aurons pas beaucoup le temps de parler aujourd'hui. Nous sommes en danger. J'ai suivi avec intérêt vos progrès dans le domaine des voyages et j'en ai profité pour apprendre. Vous ne m'en voulez pas ?
Pourquoi devrais-je vous en vouloir ? Bredouilla-t-il complètement pris au dépourvu par le revirement d'attitude de la jeune femme.
Pour avoir, par exemple, indûment abusé de vos leçons, cher professeur, répondit-elle d'un ton enjoué. Pour un tas d'autres raisons. J'en ai tellement à me faire pardonner, mais pas maintenant, si vous le voulez bien. Nous devons partir à la recherche de celui qui nous attend quelque part par là.
Elle désigna la voûte céleste.
À deux, cela augmente raisonnablement les chances de le retrouver, vous ne croyez pas?
Le cœur de Tixou s'emballait à la vitesse d'un chigalin cornu au galop. Il approuva d'un hochement de menton.
Si ça ne te fait rien, c'était la première fois de sa vie qu'elle tutoyait quelqu'un. Une impulsion, une envie, une manière de couper avec son passé. J'aimerais prendre un bain dans l'océan avant de partir. Chaque fois que j'ai vu te baigner en compagnie de tes amis les géants des mers, j'ai été prise d'une folle envie de t'imiter. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas osé. Ma peau n'a jamais connu le contact de l'eau de mer. Ça va sans doute te paraître absurde, mais si je n'accomplis pas maintenant cette expérience d'abandon, je ne pourrai pas non plus m'abandonner au voyage, et il me sera impossible de t'accompagner. Tu comprends ?
Avant qu'il ait eu le temps de répondre, elle se leva et jeta sa chemise déchirée par-dessus sa tête. Elle courut nue, cheveux au vent, vers l'océan, évitant gracieusement les coups de fouet des nageoires caudales des monagres, toujours aussi agitées. Tixou retira sa combinaison et se lança à sa poursuite, suivi à distance par Kachomarum, son ange gardien. Lorsque ses pieds s'enfoncèrent dans les premières vaguelettes mousseuses et grésillantes, Afikit ne parvint pas à surmonter son aversion viscérale pour l'élément liquide. Elle recula pour ne plus subir la caresse de ses langues froides et mouvantes. Tixou arriva derrière elle, la saisit par la taille et les jambes, ce dont, contrairement à ce qui s'était passé dans le monastère, elle ne se défendit pas, et s'avança dans la mer jusqu'à hauteur du bassin. Là, il la projeta sans hésitation dans l'eau glacée selon le procédé breveté de Stanislav Nolustriste, berger de Markina. Elle suffoqua, hoqueta, toussa et poussa des petits cris aigus. Puis, les premiers instants de dégoût et d'émoi passés, elle se laissa choir d'elle-même dans les rouleaux d'écume blême qui venaient du large, se baigna avec un plaisir enfantin, plongea dans les vagues en riant, goûta la morsure de l'eau salée sur sa peau. Tixou n'éprouva pas pour elle ce désir sensuel qui l'avait si souvent étreint lors des fréquentes visites de la jeune femme sur l'écran de son imagination, mais seulement ce plaisir innocent, spontané de partager l'enchantement de l'instant. Leurs âmes s'évadaient de leur vétuste prison, se dépouillaient de leurs défroques étriquées, se retrouvaient enfin, se reconnaissaient, s'interpellaient. L'océan des fées d'Albar les dépouillait des ultimes lambeaux de leur passé, des vestiges de leur existence révolue. L'eau les purifiait, les restituait à la virginité du moment présent, à la magie de l'éternellement neuf. Elle déposa un rapide baiser, un baiser maladroit, un baiser qu'elle semblait dérober sur les lèvres de l'orangien. Et lui, il aurait bien voulu qu'elle lui en dérobe d'autres.
« Tu sais pourquoi les monagres s'agitent comme ça ? »
demanda-t-elle. « Je crois qu'ils pressentent un danger et qu'ils veulent nous en avertir, » répondit-il. Les yeux d'Afikit, ses merveilleux yeux bleus, verts et or, s'emplirent d'une soudaine gravité.
Les hommes du Nouvel Empire, ils vont bientôt se matérialiser sur l'île. Ils ont fait venir à Ouat des déromates. Je suis tout à fait prête maintenant.
Ils coururent vers la dune pour récupérer leurs vêtements. Katcho Marum les escortait à distance, gigantesque masse noire qui traçait son sillon sur le sable. Tixous se retourna, attendit que l'énorme gueule du grand monagre fût à sa hauteur et murmura.
« Adieu, Katcho Marum, je ne t'oublierai pas. »
Le cétacé gémit doucement. Ses six yeux ronds et brillants se remplirent d'une ineffable tristesse, puis de son allure dandinante, il s'en alla rejoindre ses congénères et se mêler à leur étourdissante symphonie.
« Où irons-nous ? »
demanda Afikit à mi-pente de la colline de sable.
« Je n'en ai aucune idée, » dit Tixou. « Laissons-nous guider par l'intuition. Elle seule saura nous aiguiller correctement. »
À peine avait-il prononcé ces mots qu'une dizaine d'hommes se matérialisèrent subitement sur la plage. Des mercenaires de Prithiv, deux scaïtes d'Hyponeros. Les monagres, qui s'attendaient visiblement à ces apparitions, se ruèrent sur les nouveaux arrivants et les chargèrent corne en avant.
« Il en vient de partout !» cria Tixou.
D'autres mercenaires s'agitaient sur les rochers alentours et convergeaient vers les deux fugitifs. Tixou et Afikit n'eurent pas le temps de gagner le sommet de la dune, ni par conséquent celui de se rhabiller. Ils s'assirent l'un en face de l'autre au milieu des herbes jaunes et joignirent spontanément leurs mains. Alors ils ne furent plus deux, ni même une addition de deux êtres. Ils furent un. En contrebas sur la plage, les rayons verts et les disques s'acharnaient sur les monagres fous de colère. Déjà les flots de sang jaillissaient des grandes carcasses sanglantes ou à moitié désintégrées et empourpraient le sable gris. Des jurons fusèrent des fentes buccales des masques blancs. Les assassins de Prithiv prirent la dune d'assaut. La tenaille se referma sur le vide. Les assaillants ne découvrirent qu'une blouse bleue en mauvais état, une combinaison de pêche encore humide, des couvertures et quelques récipients curieusement teintés d'une substance verte. Ils fouillèrent l'île de fond en comble, mentalement et physiquement, passèrent au crible rochers, criques et falaises, mais ils ne trouvèrent aucun indice qui leur permit d'orienter leurs recherches. Dépités, ils se vengèrent sur les monagres qu'ils massacrèrent jusqu'au dernier.